Bienvenue à cette toute dernière émission de L'Heure Juste en cette année 2021. On se retrouvera, soyez-en certains, en 2022, mais d'ici là, on va se reposer. Ça fera grand bien, je pense, d'ici là. Même si l'actualité ne prend pas de pause, hein, tout de même, on aura des journalistes, nous, à la radio, qui continueront, et j'en fais partie, de suivre l'actualité durant la période des fêtes. Donc, vous pouvez continuer à nous suivre via nos différents bulletins d'information. Mais menu d'aujourd'hui, donc, pour cette dernière de L'Heure Juste, on vous a parlé il y a quelques temps aux nouvelles, justement, de l'histoire réelle de Tuxedo Kid. C'est un homme, Bertrand, Léo Réal Bertrand, qui a été condamné à la peine de mort pour un meurtre qu'il a commis du côté du lac Sainte-Marie il y a 70 ans de cela. Il a été pendu 2 ans plus tard, en 1953. Je me suis entretenu avec un auteur, Raymond Ouimet, qui a écrit sur le sujet. On lui parlera plus tard à l'émission. Francis Labbé, les porte-paroles chez Hydro-Québec. On parlera avec lui d'un projet d'électrification de la communauté de Lac-Barrière qui existe. C'est pas en branle parce que c'est un plan de match qui existe sur papier. Mais on attend des demandes de cet effet de la part de Lac-Barrière et du gouvernement fédéral, ce qui n'est pas fait pour l'instant. Mais si une demande vient à être adressée, eh bien, le plan est vraiment complet. On est prêt, là, en quelques mois, à connecter cette communauté qui est située dans la réserve faunique La Vérendrye. Mais d'entrée de jeu, on s'entretient avec Andréane Gélina Proulx. Elle est professeure en administration scolaire à l'Université du Québec en Outaouais pour jaser de comment on peut révolutionner le monde scolaire, comment on peut revoir un peu l'environnement d'apprentissage sans nécessairement avoir des écoles qui coûtent des millions de dollars, des nouvelles écoles, parce qu'on n'en aura pas de sitôt des nouvelles écoles dans la région. Elles ne sont pas pleines. Il y a des priorités, des défis ailleurs en province, donc on est loin d'être dans les priorités. Et en plus, nos écoles sont bien entretenues. C'est ce que nous assure la commission scolaire. Donc, ceci étant dit, comment on peut peut-être changer un peu notre façon de faire, revoir le modèle qu'on propose à nos élèves pour le rendre peut-être plus attrayant et aider à la réussite scolaire. Et donc, on a comme je vous le disais, pour nous en parler, Andréane Gélina Proulx au bout du fil. Madame Gélina Proulx, bonjour.
Bonjour.
Donc, je trouve ça fort intéressant parce que vous êtes, en administration scolaire, ça peut être très large, mais vous connaissez plusieurs manières ou façons de faire pour justement tendre à arriver vers un modèle plus, je le disais, là, plus 2021. Là, je dirais pas 2.0 parce que ça ne fait pas très 2021. Mais donc, c'est intéressant de vous jaser parce que c'est ça. J'ai l'impression qu'on n'aura jamais de nouvelle école, en tout cas pas avant un bon petit bout. Mais c'est ça, il y a quand même moyen, sans que ça coûte des millions de dollars, sans faire des travaux d'envergure, de tendre vers l'expliquez-nous un peu là, comment ça peut se passer tout ça. Là.
Oui. Effectivement, on pourrait souhaiter, hein, des nouvelles constructions dans un monde idéal, avoir des belles écoles neuves et non des écoles de 57 ans ou d'une fois centaine d'années. Par contre, en attendant que nos rêves soient exaucés, on peut penser à, effectivement, comme vous dites, de l'entretien qui est déjà fait, des rénovations, mais il y a des petits projets moins coûteux, disons, et qui aussi, il faut le dire, hein, on les voit apparaître, ces projets-là, dans les écoles actuellement. Donc, dans votre région, il y a probablement des gens qui vont se reconnaître parce qu'ils ont des projets pilotes ou ils font déjà ces éléments-là. Mais on pourrait penser, entre autres, à toute la question des classes flexibles. Donc, quand on parle de classes flexibles, on parle justement là, pas de classes en randonnion, là, comme on pouvait traditionnellement les voir, mais plutôt avoir des centres d'intérêt, pas seulement avoir des pupitres avec des tables, mais avoir un petit salon, avoir un coin plus de lecture. Ensuite, on peut penser aussi à tous les modèles de classes extérieures. Puis on le voit aussi dans les nouvelles constructions, hein, on veut aller dans l'embellissement de la cour, avoir plus de fenestration pour se connecter à l'environnement. Donc, il y a toute cette idée de classe extérieure qu'on retrouve de plus en plus dans les écoles où on amène les jeunes à faire leurs cours à l'extérieur. Donc, ça peut être dans leur cours d'école. Et il y a aussi là, des pédagogies ancrées dans la communauté où on veut vraiment amener l'élève là, à davantage sortir de la classe, mais exploiter la communauté. Donc, ça peut être un parc national qui est pas trop loin, un musée, ça peut être juste la cour d'école, un petit ruisseau, bref, d'utiliser l'environnement autour de l'école. Donc, si on n'a pas l'argent pour avoir des fenêtres, ben, on peut nous sortir à l'extérieur et puis exploiter cet environnement-là. Alors, Je vous donne deux exemples, ouais. mais on pourrait en dire davantage.
Mais c'est quoi? C'est parce que justement, là, il y a d'autres modèles dont on pourrait parler, mais les classes flexibles, classes extérieures, bon, c'est se rapprocher de l'extérieur, c'est d'un peu justement sortir de ces classes traditionnelles, puis entre quatre murs, mais autre ça, c'est quoi le bien pour les élèves? Tu sais, on entend souvent que les jeunes, bon, on a plein de TDAH, on a plein de... Est-ce qu'on a vraiment tant de TDAH ou c'est juste des jeunes qui sont peut-être pas justement adaptés aux modèles qu'on leur propose, puis que d'autres modèles... Tu sais, c'est quoi les avantages de ces modèles-là?
Mm-hmm. Ben, en fait, quand vous dites, justement, on veut des nouvelles écoles ou on doit les entretenir, il n'y a pas juste, à proprement parler, là, les caractéristiques physiques. Hein, voir un environnement là, sain, sécuritaire, c'est très important. Là, on veut une bonne qualité d'air et tout ça. Mais effectivement, on doit penser que si on veut améliorer l'environnement, c'est pour d'autres raisons qui sont scolaires, c'est-à-dire favoriser la réussite scolaire, la réussite éducative. On veut favoriser la motivation des élèves, leur engagement. Favoriser aussi la différenciation, donc répondre aux besoins de tous les élèves. Alors justement, quand on parle de classe flexible, c'est cette idée de donner la possibilité à des élèves qui veulent bouger davantage, d'avoir peut-être un bureau actif, donc avec des pédales, d'avoir aussi des élèves qui peuvent aller plus à leur rythme, donc avoir des centres où ils peuvent eux-mêmes travailler pour des exercices, pouvoir avoir en sous-groupe des élèves avec l'enseignante pendant que les autres font d'autres activités, donc un petit centre là où l'enseignante peut faire un enseignement plus individualisé. Donc c'est toute cette idée d'avoir une classe qui va répondre à cette diversité de besoins des élèves que l'on a dans nos classes, qu'ils soient TDAH ou qu'ils aient d'autres particularités. Donc, on vise de plus en plus l'inclusion scolaire, mais cette inclusion-là, c'est pas par magie, hein? C'est pas juste une bonne volonté, c'est pas de se dire ça serait une belle chose dans notre milieu, mais il faut mettre en place aussi une pédagogie, donc la différenciation pédagogique, mais aussi avoir un environnement qui est adapté pour réaliser cette pédagogie-là.
On a chez nous une initiative qui a vu le jour il y a quelques années. Je ne donnerai pas une année parce que le temps passe tellement vite que je pourrais être déphasé, mais il y a quelques années de ça, pas tellement longtemps, du côté de Blue Sea, une école à volet alternatif. C'est vraiment pas une école alternative parce qu'il y a des devoirs, des examens, il y a des leçons, il y a quand même le traditionnel, mais ils sortent beaucoup à l'extérieur. Quand ils font des maths, ils vont aller dehors ou ils vont construire un bac à fleurs. Donc, il faut qu'ils prennent des mesures, il faut qu'ils jouent avec, tu sais, il faut qu'ils travaillent le bois, il faut qu'ils fassent des mesures, justement. Fait qu'ils touchent à plein de part de leur apprentissage. C'est des classes, justement, ils sont en train de développer une classe extérieure. Les portes des classes sont ouvertes, ils ont des poufs, ils peuvent s'installer où ils veulent un peu. Donc ça, je comprends que ce modèle... Puis les parents sont impliqués, ça n'a pas de bon sens, là. Ils sont appelés à être impliqués. C'est comme un prérequis. Quand ton enfant va là, il faut que le parent s'implique, il faut qu'il fasse du bénévolat, faut qu'il... Donc ça, de ce que je comprends que vous venez de me dire, ce modèle-là, c'est vraiment... ça se colle aux nouvelles manières de faire. C'est quand même, c'est un peu l'idéal, tout ça, là.
Ben, tout à fait. Je pense qu'on peut saluer ce genre d'initiative-là. Et puis, on peut aussi encourager les initiateurs de ce genre de projet de garder des traces puis essayer de voir justement l'impact des projets. Mais déjà, si vous me dites que il y a de l'intérêt de la communauté, les parents sont impliqués, ça me semble être aussi des activités qui sont stimulantes, donc je peux m'imaginer des élèves motivés d'aller à l'école. Je pense qu'on commence à avoir plusieurs éléments là qui favorisent une réussite scolaire, une réussite éducative, donc le développement global de l'élève, là, c'est-à-dire son bien-être, sa socialisation, l'idée d'être pouvoir là, se développer dans son entièreté. Donc, je pense qu'on ne peut que saluer des initiatives comme celle-là. On peut ensuite souhaiter qu'elles se généralisent ou du moins qu'elles se multiplient ces initiatives-là pour que des enfants, des élèves qui ne sont pas dans le secteur de Blue Sea puissent aussi en bénéficier. Ouais. Donc, chaque élève dans sa propre communauté puisse avoir ce genre d'expérience scolaire.
Andréanne Gélina Prou, je le disais, vous êtes enseignante là, du côté de l'université, professeure en fait au niveau de l'Université du Québec en Outaouais, professeure en administration scolaire. Merci d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui et on va rejaser avec, j'ai fait une approche du côté du Lab École aussi qui a une approche ou une vision de l'école du futur, si on peut l'appeler comme ça. On aura la chance de leur parler là, au retour des fêtes. Madame Gélina Prou, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes en santé.